C'est un message que vous avez dit qui va être un petit peu particulier. Et je vais continuer les messages avec Patrice Martorado. Donc j'en suis aussi au huitième passage. Et je vais faire un raccord avec ce qu'on vit aujourd'hui, la Pentecôte. Et je vous invite à aller voir dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 5. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 3 à 5. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant en leur donnant plusieurs preuves, en se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. 40 jours, le Seigneur est resté avec ses apôtres. C'est incroyable. 40 jours. Que s'est-il passé pendant 40 jours? Il s'est présenté d'abord à une femme qui voulait voir Jésus, qui était au moment de dans la tombe de Jésus. Elle voulait voir Jésus, elle a trouvé Jésus. Jésus s'est montré à elle. Jésus s'est présenté aussi après aux apôtres, avec ces deux apôtres qui étaient sur la route d'Emmaüs. Il s'est présenté aussi aux apôtres de Jérusalem. Et après, il s'est présenté même à 500 personnes. Il s'est présenté entre 11 et 12 fois. Et il est resté avec ses disciples. En fait, pendant 40 jours, le surnaturel côtoie le naturel. C'est quelque chose d'incroyable, c'est possible. Pourtant, Jésus avait tout accompli à la croix, mais il décide quand même de rester avec nous. Il reste avec nous pour nous parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et en fait, je crois que pendant ce temps de 40 jours, il a voulu, avec ses disciples, mettre en place les fondements de l'Église. Et il a montré que l'Église ne serait pas une œuvre humaine, mais serait une œuvre surnaturelle. Et là, il faut comprendre quelque chose d'important, je crois. Depuis que nous avons accepté Jésus dans notre vie, comme Sauveur, nous sommes à l'école des rois et des reines, car notre destinée future, c'est de régner sur un monde nouveau que Dieu va créer. Et ça, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose de sidérant. On est à l'école des rois et des reines. Et ça, il n'y a pas peu de temps, j'ai pris conscience de cette chose. Nous sommes à l'école des rois et des reines pour le temps qui nous reste. Et c'est pour cela que Dieu nous met des circonstances dans nos vies. Il permet les épreuves, certaines situations, pour que nous apprenions à réagir et à prendre les bonnes décisions. Et tout ça en vue du règne futur. Prenons un exemple, c'est aujourd'hui nous allons à l'école, on va à l'université, tout ça pour apprendre quelque chose, pour apprendre un métier, pour avoir un avenir. C'est pour ça que Dieu met des épreuves dans nos vies. C'est comme un examen. Et les examens ne sont pas pour les professeurs. Ils sont pour nous, pour savoir où nous en sommes. Les épreuves, quand elles sont là, c'est pour apprendre à régner sur elles. Voilà. Nous avons le pouvoir de régner sur les épreuves qui nous arrivent. Apprendre les bonnes décisions. C'est l'école. Et Jésus nous a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais te confier de véritables choses. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un chemin, le chemin pour nous aider à vivre ces épreuves et à régner sur elles. Ce chemin, c'est d'aimer Dieu. Alors Paul nous inspire dans sa manière d'aimer Dieu. Son amour envers le Seigneur le lie totalement à lui. Il déclare « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est Paul qui dit ça. Par deux fois, Paul dit « j'ai appris ». Quand on voit les textes originaux, ces deux mots ont une signification un peu différente. On les traduit par « être enseigné » au verset 11 et « être initié au mystère » au verset 12. Alors, j'ai refait le texte de façon à le comprendre dans son langage originel. Verset 11. « Car j'ai été enseigné à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai été initié au mystère, à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » En fait, Paul déclare qu'il a appris la théorie et la pratique. Mais est-ce qu'on réalise vraiment dans nos vies la grandeur de ce mystère? Aimer Dieu au-delà des circonstances est un non-sens en général pour un chrétien qui est froid, un chrétien qui est tiède. Il faut devenir des chrétiens bouillants. Depuis l'Antiquité, les hommes recherchent des divinités pour atteindre l'abondance, rarement afin d'apprendre à se réjouir au milieu de la pauvreté, de la nudité ou de l'humiliation. Quel est le secret de Paul pour être capable de garder la tête froide en vivant dans l'abondance? Pas évident. Quel est le secret de Paul pour rester fidèle à Dieu malgré le dénouement, les naufrages et la lapidation? Son secret est qu'il puise sa force dans l'Éternel. L'apôtre Paul déclare lui-même avoir été initié à ce mystère. Dieu lui a révélé le secret d'une vie profonde, celle qui peut être conditionnée par les événements extérieurs. Aimer Dieu au-delà de la bénédiction. Alors, je vais vous parler d'une ville, la ville de Tarse. Tarse était une grande ville. Elle avait plus de 2000 ans d'histoire au moment de la naissance de Paul. Donc c'est une vieille ville. C'était une ville privilégiée, reconnue par sa philosophie, son art, son industrie du lin, et pour avoir développé sa propre classe intellectuelle. La ville de Tarse avait été rendue autonome par les Romains en 67 avant Jésus-Christ. C'était donc une ville ouverte au monde de l'époque. Paul, né au milieu d'une famille aisée, a grandi dans cette cité aux multiples facettes. Nous savons, de par les évangiles, notamment dans Actes 22, verset 27, que Paul était romain de naissance. C'est certainement par son père qu'il lui a transmis. Plus important que sa citoyenneté romaine, c'était son arrière-plan hébreu. Juif, pharisien et d'un zèle excessif. L'apôtre Paul a été instruit à l'école de Hillel, une des plus prestigieuses de l'époque. Il a également reçu l'enseignement du meilleur professeur de théologie de la région, Gamaliel. En quelques mots, Paul était né dans une ville universitaire, au milieu d'un foyer aisé. De plus, il possédait la double nationalité. Hébreu, né d'hébreu, il parlait trois langues, l'hébreu, l'araméen, le grec et peut-être même le latin. Il était donc un homme très instruit. Malgré toutes les bénédictions, Paul disait avec une forte conviction de sa prison à Rome, il disait « Christ est ma vie et la mort un gain ». Comme Paul, nous devons apprendre à aimer Dieu au-delà des bénédictions, au-delà de ce que Dieu nous donne. Nous devons puiser notre force en Dieu et notre espérance doit se trouver en Jésus-Christ uniquement. Combien de personnes désirent les richesses de ce monde, plus que la présence de l'Éternel? La Bible met en garde en demandant d'amasser des trésors dans le ciel et non ici-bas. Il nous faut aimer Dieu au-delà de l'affliction, au-delà de la douleur. Paul disait aux Philippiens, « J'ai aimé Dieu dans l'affliction. » La vie de Paul est saisissante, car malgré tout ce qu'il vécut, jamais il n'abandonna. Il n'abandonna jamais l'amour de Dieu. Il tenait bon malgré les coups, les emprisonnements, les naufrages. Paul n'était pas perturbé par les richesses. Même l'affliction ne le faisait pas défaillir dans sa foi. Parfois, des personnes ou des proches qui sont loin des choses de Dieu peuvent nous piquer par des paroles, par des attitudes et venir nous déstabiliser dans notre foi. Des regards incrédules ou même des mots durs envers nous. Quand ils regardent notre vie, quand ils considèrent nos vies et nos épreuves, où est ton Dieu? Que fait-il pour toi? Tu en es toujours au même point, toujours dans les mêmes difficultés. Et malgré toutes ces paroles et les vrais problèmes, beaucoup de chrétiens continuent à aimer Dieu. D'où vient cette force? C'est un mystère pour ceux qui n'ont pas rencontré Dieu. On peut prier pour ces gens qui n'ont pas rencontré Dieu. Paul a appris à aimer Dieu et rien ni personne ne pouvait le détourner de son engagement envers lui. Il déclare « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dénominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Cela n'est pas une promesse de Dieu inconditionnelle. Pour les croyants, c'est une promesse conditionnelle. Il y a une condition. Car plusieurs chrétiens ont abandonné la foi face à la vie, face à la mort, face à l'avenir. Pour posséder la promesse de l'Éternel, il faut aimer par-dessus tout. Il faut aimer l'Éternel. Puisons notre force en lui. Paul prend les extrêmes. La vie, la mort. Les anges, les démons, le présent, le futur, la hauteur, la profondeur, et déclare qu'aucun ne pourra l'éloigner de Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que Paul avait une pensée permanente. Aimer Dieu par-dessus tout. Voyons maintenant la vraie bénédiction. L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, « Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les canards. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Oui. Les Hébreux ont le cou raide, et ils n'étaient pas avec Dieu. Mais Dieu voulait faire quelque chose pour le peuple. Alors le passage porte en lui-même tout un paradoxe, comme une opposition. Dieu dit, je te bénis, je te donne un pays où coule le lait et le miel, j'enverrai devant toi un ange pour écarter tous tes ennemis, mais moi Dieu, je ne serai pas là. Le paradoxe est qu'il est possible d'avoir des bénédictions divines, sans que Dieu ne soit avec nous. Et ce passage nous le montre. Comment cela est-il possible ? Tout simplement parce que Dieu reste toujours fidèle à son alliance, même si nous sommes infidèles. Dieu dit une parole, il n'en change pas. Il reste toujours fidèle. Dire que je suis en bonne santé, que je suis riche, et dire que cela est la preuve que Dieu est avec moi. Mais c'est un cliché, et il faut abandonner ces clichés-là. Ça n'a rien à voir. Dieu avait promis, pour serment, de donner le pays aux descendants d'Abraham, et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fit. Cependant, cela ne sous-entend pas que Dieu était avec eux. Ce passage est clair. Dieu bénit le peuple bien qu'il ne marchait pas avec lui. Moïse était conscient de cela. Mais Moïse choisit de refuser la bénédiction si Dieu n'était pas avec lui. Et c'est là que c'est important. Au-delà de la bénédiction, Moïse cherchait surtout le Dieu de la bénédiction. C'est important. La bénédiction est une bonne chose, bien sûr. Mais avoir Dieu de la bénédiction avec nous, waouh! C'est pourquoi il va appeler le peuple à la repentance et réclamera ensuite la présence de Dieu en disant « Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous ?» Moïse veut avoir le Dieu de la bénédiction. Pour Moïse, la plus grande des bénédictions, c'est lorsque Dieu marche à ses côtés. Grâce à cela, Dieu va accompagner le peuple. Alors, imitons l'attitude de Moïse. Aimez par-dessus tout le Dieu de la bénédiction. C'est lui que nous voulons. Ouais. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Maintenant, soyons fiers de Jésus. Si quelqu'un veut épouser de la fierté, c'est dans la Bible, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. C'est dans 1 Corinthiens 1, 31. L'homme, dans son orgueil et son illusion, a une tendance accrue à placer sa fierté dans sa propre sagesse, sa propre puissance ou sa propre richesse. Le seul et unique appui valable repose sur la connaissance de l'Éternel et en être conscient. Dieu, à travers le prophète Jérémie, a dit « Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de ceci, d'avoir l'intelligence de ne connaître moi qui suis l'Éternel. » L'identité d'un homme se structure autour de ce qui le valorise. C'est pourquoi il est intéressant de se poser ces questions pour nous. Qu'est-ce que je mets en avant dans ma vie? Qu'est-ce que je présente? Qu'est-ce que je mets en avant dans ma vie? « Dans quoi est-ce que je place ma gloire? Où est-ce que je mets ma gloire? Un chrétien devrait jamais placer sa satisfaction dans les choses de ce monde. La sagesse humaine ne s'accorde pas avec celle de Dieu. Il est écrit que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Ce qui se passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Ne placez pas votre honneur dans les choses matérielles, ni dans les hommes, mais placez toute votre confiance dans le Seigneur. Rien ne nous valorise plus que d'être avec Jésus. Ne vous trompez pas. Les beaux habits, comme les belles voitures, sont périssables. Ce qui doit remplir nos cœurs de fierté, c'est d'être enfant de Dieu et d'être l'ami de Jésus-Christ. Il nous faut reconquérir son premier amour. Il est écrit dans Apocalypse 2, verset 4, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors initialement, ce reproche est fait à l'église d'Éphèse. Pourtant, c'est une église reconnue pour sa persévérance et sa fidélité envers les Saintes Écritures. Après les éloges faits à cette assemblée, Dieu dit, point de suspension, mais il a un reproche, il a quelque chose à dire. L'Éternel connaît nos qualités, mais au-delà des bonnes actions, Dieu voit plus loin. Des exemples. Vous avez soutenu des ministères à travers des dons. C'est bien, mais vous servez dans le groupe de louanges. C'est bien, mais vous faites l'entretien des locaux de l'église. Ah, c'est bien, mais vous prêchez la parole de Dieu. Ouais, je prêche la parole de Dieu. C'est bien, mais vous ne vous êtes pas laissé séduire par des fausses doctrines. Oui, c'est bien, mais voilà, vous êtes un pasteur, mais c'est bien, mais tout cela est bon. Et Dieu vous en félicite, car votre marche d'autrefois est couronnée de succès. Cependant, le Seigneur, au-delà de vos belles actions, qui lui sont agréables, oui, c'est vrai, veut avant toute chose votre amour total. On pourrait exprimer aussi une relation totale, une relation sincère. La Bible ne dit pas « Tu as perdu ton premier amour ». La Bible dit « Tu as abandonné ton premier amour ». Et la différence, elle est majeure. Perdre signifie égarer involontairement. J'ai perdu. Or, l'abandon est volontaire. Avant l'abandon du premier amour, le Seigneur parle au cœur. Il parle au cœur du chrétien, par son esprit. Et malheureusement, beaucoup étouffent la voix du Seigneur. C'est pourquoi, comme un doux conseil, le Seigneur vient faire un constat auprès de vous, auprès de moi, auprès de chacun, pour savoir où vous en êtes dans votre relation d'amour avec lui. Le Seigneur, dans sa lettre, laisse une ordonnance avec trois prescriptions. Repens-toi, souviens-toi et pratique tes premières œuvres. Il y a un retour aux origines. Si le début de la lettre s'adresse de manière générale à l'église d'Éphèse, elle finit de manière personnelle à celui qui vaincra. Je pourrais dire à celle qui vaincra. Eh bien, nous sommes responsables de ce choix. Si aujourd'hui vous réalisez que Dieu n'est plus la priorité de votre vie, mettez-vous à genoux et demandez-lui grâce, il vous l'accordera. On va prier maintenant. Alors cette prière, elle, voilà, vous la prenez comme si elle vous est, vous pouvez la prendre pour vous. Voilà, c'est vraiment une proposition. Seigneur Jésus, notre roi des rois, notre ami, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous voulons aimer Dieu au-delà des circonstances. Permets-nous, Jésus, de dépasser nos limites. Nous voulons aimer Dieu au-delà de la bénédiction. Père, nous voulons que tu sois là dans notre marche, toi, le Dieu de bénédiction. Jésus, aide-nous à aimer Dieu au-delà de notre affliction, de nos peines, de la maladie. Je suis fier d'être ton ami, Jésus, fier d'être un enfant de Dieu. Merci, Jésus. Je te demande pardon pour toutes mes faiblesses et mes manquements. Aide-moi à reconquérir mon premier amour. Le meilleur pour moi, c'est toi, Jésus. Je veux te suivre dans cette école des rois et des reines. En ce jour où nous fêtons la Pentecôte, envoie-nous ton Esprit Saint pour être rafraîchi et renouvelé dans l'esprit. Amen. Alors je voudrais finir par deux versets. Et c'est de Jean. Il parle de la Bible et il témoigne de choses. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Et si on les écrivait en détail, je pense que le monde même pu contenir les livres qu'on écrirait. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà, soyez bénis. Que le Dieu de gloire, de grâce, soit avec vous. Amen.